Oui, je voulais préciser que quand Frédéric dit c'est dans le secret, c'est-à-dire que même les parlementaires de la commission des finances n'ont pas accès à l'agenda des négociations. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire aux chers représentants, ne savent rien de ce qui se passe dans ces commissions.
C'est sûr, j'ai foutu mon stylo.
Une autre réaction, une autre question. Oui.
Y a-t-il des procédures de recours contre les décisions arbitrales?
Oui. Oui. Oui.
Madame, oui.
Moi, c'était le comité de suivi de l'accord. Est-ce qu'il est déjà constitué? Et je sens par qui il est constitué?
Tu peux déjà répondre à ces questions, Frédéric.
Alors, comité de suivi, et puis c'était quoi l'autre question?
Est-ce qu'il y a des recours?
Ah, les recours sur les arbitres. Oui. Mais chaque organe arbitral organise lui-même sa propre procédure, c'est le principe. Et comme il est reconnu par les États, eh bien, sa procédure s'applique. Et la plupart ont un jugement qu'ils appellent en appel. En réalité, c'est un rejugement, ben, c'est ça l'appel, hein, c'est le principe. C'est-à-dire on juge une deuxième fois avec des arbitres différents. Voilà. Si les parties sont d'accord pour ça. Ce qui ne change pas grand-chose, parce qu'en fait, on change de tête, mais ce sont les mêmes avocats internationaux. Oui, c'est la même clique. Hein. Dans les avocats internationaux, il y a 15... cabinet d'avocats internationaux dans le monde, il y en a 10 aux États-Unis, 5 dans l'Union européenne. Bon, c'est entre 1000 et 3000 euros de l'heure. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas nécessairement. Et bah, ça, c'est important de le savoir, mais surtout, ils appliquent l'accord. Le reste, ils l'appliquent pas. Le comité de suivi, non, il n'est pas encore, satisfait. En réalité, ce qui est dans les tuyaux, pour l'instant, là j'ai juste parlé de trucs précoces, en fait ce sont les 6 étapes bien détaillées par lesquelles les lobbies interviennent avant la réglementation. Ça, c'est déjà dans le mandat, c'est déjà sur la table. Hein. Alors on a ça du côté du mandat de l'Union et du côté des papiers qui ont été publiés du côté des États-Unis. Le comité lui-même, non, n'est pas encore constitué. On a du temps, on a encore 2 ans.
J'ai 2 questions. Déjà, alors, tu parlais effectivement des collectivités locales qui céderont tout de suite. Si un pays ne fait pas de recours, refuse qu'un autre pays, par exemple dans des pays tels qu'en Amérique latine, en Équateur, etc.
Tu veux parler de Cornélie?
Refus de payer.
Le refus de payer, par exemple, pour un pays, parce que bon, au niveau communal, effectivement, c'est peut-être un petit peu difficile. Donc, que se passe-t-il?
Vas-y. Rien. C'est-à-dire que la question, c'est qu'est-ce qui se passe si un pays refuse de payer l'amende? On ne peut pas mettre un pays en prison. Donc, il ne se passe rien. Après, c'est une question de volonté politique et de contexte. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que l'Équateur va payer à Texaco ou pas? J'en sais rien. Est-ce que l'Allemagne paiera si elle est condamnée à la demande de Vattenfall? Ça, ce sont des choses qui demandent une volonté politique, en tous les cas, pour refuser de payer ça, qui est assez importante au minimum. C'est-à-dire, il faut imaginer que les États ont fait des accords internationaux, donc ils se sont mis d'accord entre eux, ils se sont mis d'accord sur une procédure arbitrale, et ensuite ils disent « Ah ben non, on ne paye pas ». Donc, la probabilité qu'ils ne le fassent pas n'est pas nulle. Elle existe, mais elle demande un certain nombre de combats politiques et reçus très très importants.
Il y a quand même des changements radicaux.
Absolument. Voilà. Et on a des exemples, effectivement, où... Mais tu en as peut-être aussi. Hein.
Non, mais j'allais te poser la même question. Est-ce qu'on sait aujourd'hui... Bon, les 2 exemples que tu as cités, Vattenfall et puis et l'autre, on n'a pas encore le résultat. Mais sur les 500 et quelques qui ont été, il y en a sûrement un certain nombre qui sont arrivés des clos. Il y a eu des cas où les États ont été condamnés. Est-ce qu'ils ont payé? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a des États qui, actuellement, sont en train de rechigner en disant « Bon, je me suis fait avoir quand j'ai signé ce traité. Maintenant, c'est fini. Je ne vais plus l'appliquer et je refuse de rentrer dans cette logique-là. » La troisième question, c'est un petit peu différent. Tu as dit qu'on pouvait agir au niveau des villes. Si ce traité arrive... Et s'il y a un accord entre l'Union européenne et les États-Unis, ça va de toute façon quand même passer devant les députés européens. Mmh. Il va falloir qu'ils l'entérinent. Mmh. Donc il y a peut-être une action aussi qu'on peut avoir de sensibilisation des députés européens, surtout quand là on est en période, en phase de préparation des élections européennes.
Oui, tu as tout à fait raison sur ce dernier point. C'est quelque chose que j'aurais dû dire. Évidemment, là, il y a des élections européennes et il faut les enquiquiner avec ça, bien sûr. Ça, c'est la prochaine, c'est l'échéance qu'on a tout de suite maintenant. Ça, c'est tout à fait clair, puisque le prochain Parlement européen, quel qu'il soit, sera celui qui sera saisi, voilà, par le texte s'il arrive à être négocié jusqu'à son terme. Et donc, effectivement, on a cette campagne-là à mener, c'est absolument certain. Sur les pays qui rechignent. Mais je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui peuvent répondre mieux que moi, hein. J'en suis certain. Sur les pays qui rechignent, il y a l'Équateur a été condamné, à ma connaissance, n'a pas payé. Ceci dit, les pays qui ont été condamnés, l'Argentine jusque-là n'a pas refusé de payer. Voilà. Je suis dans l'incapacité, à l'heure qu'il est, de dire si finalement l'Équateur ne va pas céder. Je n'en sais rien, parce qu'il y a tout un tas de considérations politiques qui rentrent là-dedans, qui sont y compris des considérations géostratégiques. Enfin, est-ce que l'Équateur va céder, ne va pas céder? Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que par exemple, il y a un certain nombre de pays qui sont sortis de l'arbitrage international, notamment du CIRDI. Alors ça, c'est simple. Ce sont les pays, en gros, hein, les trois plus gros pays de l'ALENA qui ont... de l'ALBA, c'est-à-dire le Venezuela, la Bolivie et il en manque un, c'est peut-être le Pérou, si je ne dis pas de bêtises,
la Colombie,
qui ont décidé de rembourser leur dette vis-à-vis de la Banque mondiale et qui, à partir de là, ont dit « Bon, maintenant, votre tribunal arbitral, on ne veut plus en entendre parler. » Et hop, et qui sont sortis du CIRDI. Bon, voilà, ça, ce genre de choses, on a ce type d'exemple-là. La volonté politique des États de ne pas céder à cela, dès lors qu'ils ne veulent pas céder, ils ne cèdent pas. Le souci qu'on a, c'est est-ce que cette volonté politique, elle existe? Pourquoi attendre que soit mise en place ce type de mécanisme? Il vaut mieux lutter maintenant pour éviter que ce soit mis en place, pour éviter dans 10 ans de se dire est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on ne paye pas. Voilà, exactement. Vas-y.
Une autre question, c'était donc par rapport aux entreprises transnationales. Quelle est la possibilité pour une filiale d'une entreprise transnationale qui se trouve à l'étranger de porter plainte contre un pays dans lequel se trouve le siège de l'entreprise? Est-ce qu'il favorise évidemment le siège de l'entreprise?
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais j'ai l'impression que la réponse est dans la question. C'est-à-dire que... si j'ai bien compris la question, on peut prendre l'exemple de Vattenfall. Je ne sais pas si c'est un bon exemple par rapport à ta question. La filiale suédoise en Allemagne. Donc là, effectivement, on a la filiale qui porte plainte contre le pays où elle opère. C'était ça la question?
Non, pas contre le pays où elle opère. La filiale porte... T'as le siège qui est dans un pays A,
oui.
La filiale dans un pays B,
oui.
Et le pays B donc a des lois beaucoup plus libérales. Donc la filiale va porter plainte contre l'État A dans lequel se trouve le siège.
Bien sûr, bien entendu. Et ça, cette espèce d'effet, oui, d'accord, cette espèce d'effet de boomerang est tout à fait à craindre. Y compris dans le cadre Union européenne-Canada avec le système des boîtes aux lettres. C'est-à-dire
de faire un petit peu boîte aux lettres.
Voilà, exactement. Avec le système des boîtes aux lettres d'une entreprise qui est, mettons, dans un pays qui serait, par exemple, les États-Unis, mettons, par exemple, et qui aurait une filiale au Canada et qui trouverait que, oui, la législation de l'Union européenne ne lui convient pas, etc. Donc il y aurait cet effet de boomerang, effectivement, très 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 facile à mettre en place.
Oui, de ce que j'ai lu en termes d'effet boomerang, j'en avais un autre exemple, qui est notre gestion bancaire, enfin, tout le système de contrôle bancaire est finalement moins fort en Europe qu'aux États-Unis. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites aux États-Unis qui n'ont pas été faites en Europe. Les banques américaines attendent avec impatience que le TAFTA soit voté, soit accepté, pour dire, attendez, regardez, leurs filiales vont dire, quand on veut commercer, ou les filiales européennes vont dire, quand on veut commercer avec l'Europe, les filiales européennes, des banques européennes vont dire, quand on veut commercer avec l'Europe, on n'a pas les mêmes avantages qu'aux États-Unis, distorsion, donc il faut que l'Europe revienne.
Non, je le dis dans mauvais ordre. C'est dans mauvais ordre, c'est ça l'idée.
Madame.
Oui, moi je voulais savoir, même si c'est secret, c'est qui ces personnes qui négocient? Est-ce que c'est les politiques, des investisseurs?
Ah oui.
Qui a fait les...
Ah oui, ça c'est un aspect, mais bon, je voulais pas non plus vous tenir toute la nuit avec ça, mais c'est un aspect extrêmement important. Parce que, bon, alors qui négocie du côté de l'Union européenne? C'est le commissaire chargé du commerce extérieur, qui actuellement s'appelle Karel de Gucht, et qui a reçu un mandat unanime, par définition, des États de l'Union européenne pour négocier, et on a ce texte. Bien. Et puis, vous avez un point extrêmement important, je l'ai un peu évoqué, mais j'insiste lourdement, parce que c'est vraiment déterminant, c'est l'intervention des lobbies. Alors là, je vous conseille... J'ai fait la petite liste, là, mais il y en a 30, je ne vais pas toutes vous les dire. On a mis sur le site d'Attac deux documents, qui sont un document du CEO, le Corporate European Observatory, qui est en français, on a traduit. Et un autre document qui, malheureusement, est resté en anglais, qui montre à quel point les lobbies, notamment le Transatlantic Business Council, qui regroupe les entreprises des deux côtés de l'Atlantique, l'ESF, l'European Service Forum, qui regroupe les entreprises de services européennes de taille mondiale, Business Europe, la Chambre de commerce américaine, la Chambre de commerce internationale, Eurométaux, il y a tout comme ça une liste de tous les fabricants de cochons industriels, etc., etc. sont, dans l'intervention constante depuis des années et des années pour obtenir cette chose-là. Et on avait relevé un exemple très très intéressant, j'ai trouvé. C'était une lettre que les 30 gros lobbies, aussi bien des États-Unis que de l'Union européenne, ils ont écrit, ils se sont fondés d'une lettre en commun. Les 30 des deux côtés, à l'initiative de la Chambre de commerce des États-Unis et de Business Europe, qui se sont mises d'accord, dans lequel ils posaient leurs demandes. Cette lettre est quasiment du copier-coller sur les instructions que la Commission en tant que telle a données aux négociateurs. Quasiment du copier-coller, le document date du 2 décembre 2013. On a aussi, le 10 octobre 2013, un petit peu avant, De Gucht, qui parle devant l'Aspen Institute, qui est un machin, je ne sais plus où c'est ce truc, je crois que c'est à Prague, voilà, qui est un truc, un think tank néolibéral. Il a pensé qu'on l'enregistrerait pas ou ça sortirait pas de là, dans lequel il explique très très tranquillement que effectivement cet accord n'est pas un accord seulement de commerce, mais véritablement ce qui est dans l'œil du viseur, ce sont les réglementations intérieures, et que le business le réclame, le business en a besoin, le business lui a demandé ça, et c'est normal qu'il le fasse. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'il faut qu'on commence à comprendre ça, nous, je veux dire, citoyens et citoyennes, de ce côté-là de l'Atlantique, c'est qu'on sait que du côté des États-Unis, la décision publique est largement pénétrée par les lobbies industriels et financiers. On sait que la règle n'est que le reflet de la position du lobby le mieux représenté. On le sait, on a tous et toutes lu des centaines d'ouvrages là-dessus ou de films, etc. C'est très connu. il faut qu'on commence à se faire à cette idée-là que c'est la même chose ici, que les lobbies, véritablement, sont à la commande dans cette affaire-là. Dans cette affaire-là, comme dans beaucoup d'autres, mais en tous les cas, dans cette affaire-là. C'est pas tellement caché. Si vous lisez le jargon anglais, enfin, je veux dire, l'anglais qu'on pratique dans ces cénacles, si vous avez un minimum de patience et si vous ne redoutez pas de lire 45 fois la même chose, vous pouvez aller sur chacun des sites de ces lobbies et vous verrez que très tranquillement, ils exposent leurs demandes. Et si vous croisez avec le mandat, vous êtes frappé par la similitude. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on avait remarqué également, c'est que en juillet 2013, lorsque les négociations ont démarré, d'un point de vue institutionnel, il y avait une obligation de la Commission de consulter la société civile. La Commission a instauré ce qu'on appelle le dialogue de la société civile. C'est très drôle, j'y suis allé une fois, j'y retournerai plus. Hein. Ça consiste à écouter le catéchisme du commissaire qui vient nous expliquer pourquoi on n'a rien compris, on est tous des nazes, et qu'il faut mener les politiques qu'il mène. Vous avez des questions? Une question Eurométaux, une question des cochons industriels, c'est tout, merci, j'ai un avion. Voilà, ça c'est le dialogue de la société civile. Ceci dit, il y a eu 129 consultations avant le début des négociations. 118 ont été réservées aux membres des lobbies financiers industriels. C'est vous dire l'ampleur du désastre.
Monsieur, vous avez mentionné que c'était au-delà d'un accord commercial. Bon, si je ne me trompe, si c'est un accord commercial, les États ne sont pas invités. Si on va au-delà d'un accord commercial, il doit être ratifié par les 28 parlements. Est-ce que je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas, et c'est la certitude qu'on a. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est dans les institutions, je veux dire, c'est dans le traité de fonctionnement de l'Union. Compétences exclusives sur l'investissement et le commerce, donc Parlement européen. Mais vous avez raison, il y a des aspects commerciaux qui normalement, enfin il y a des aspects autres que commerciaux qui normalement, dans les aspects d'harmonisation, doivent être ratifiés par les parlements nationaux. Bon, alors on a remarqué une chose aussi là sur la ratification sur l'accord Union européenne Colombie-Pérou. La Commission a inventé la ratification prévisionnelle, l'application prévisionnelle, pardon, l'application prévisionnelle. C'est-à-dire que c'est ratifié au niveau du Parlement européen, donc on l'applique en attendant que les États ratifient. Ça nous a un peu surpris aussi, mais bon, je ne sais pas s'ils vont avoir le culot de recommencer plusieurs fois ce genre de choses, parce que c'est quand même un petit peu scandaleux. C'est excellent. Maintenant, l'incertitude de savoir si ça passe. Normalement, ça devrait passer devant les parlements nationaux. Auquel cas, ça nous redonne une possibilité supplémentaire très importante. Je pense notamment à ce grand pays qu'est la Belgique, qui a 5 parlements. C'est une merveille. 5 occasions de se manifester, c'est formidable ce pays. Bon, c'est vrai qu'il y a des opportunités comme ça à saisir, mais on n'est pas encore sûr.
Oui, et puis plus souvenir du référendum.
Exactement.
Oui, oui. Ouais.
Ces déclarations arrogantes, là, c'est notre chance. Il faut au contraire les favoriser, les encourager, parce qu'alors, elles mettent le feu aux poudres, elles n'ont même pas besoin d'allumer la mèche. Ils ont une telle arrogance qu'ils y vont. Ils ne sont pas très prudents.
Ah, ils le sont un peu plus là, puisque quand même... Ils se sont rendus compte, là, au niveau de la Commission, que ça commençait à faire bizarre. Là, en ce moment, figurez-vous qu'il y a, mettons, un petit mois, le commissaire de Gutz a quand même dit que sur investisseur-État, le mécanisme investisseur-État, il demandait aux États de consulter pendant 3 mois. Ce qui n'a pas du tout suspendu les négociations, hein, je vous rassure. Mais quand même, le simple fait qu'ils se disent « Tiens, il faudrait peut-être consulter », non seulement ça, et puis ils ont aussi fait une espèce de vadémécum à l'usage de leur commis, oui, c'est-à-dire leur négociateur, en disant « Voilà l'argumentaire que vous pouvez développer. » Des éléments de langage, comme on dit maintenant. Donc le fait qu'il se fatigue un peu à faire ça montre que il y a un début de commencement. Et puis il y a quand même les deux réactions politiques qui ne sont que des paroles verbales, hein, jusque-là, les deux réactions de la France et de l'Allemagne, qui a dit, l'Allemagne récemment a dit qu'elle ne voulait pas d'un mécanisme investisseur-État. Bon, c'est juste un discours comme ça de quelqu'un qui n'est même pas décisionnaire, c'est même pas au niveau de la chancellerie, enfin bon, c'est juste vaguement dans l'entourage du ministre, on a dit que, vous voyez, c'est pas encore ça, hein. C'est pas encore une position vraiment officielle. Mais le simple fait que ce genre de choses arrive dans la presse, et pas et dans la presse internationale, hein, c'était dans le Financial Times, veut dire que les gouvernants peut-être commencent à se dire qu'il faut faire attention. Mais tu as raison, il faut répéter partout tout ce qu'ils racontent. Ça, j'en suis convaincu depuis très longtemps. D'ailleurs, notre ami, comment il s'appelle, celui-là, le coup du plombier polonais, comment il s'appelait ce mec ? Bolkestein, il était tellement odieux que c'était un allié. Tu as tout à fait raison, il faut faire ça.
Moi, ce que je voulais savoir, si c'est dans. Il y avait une fronde qui voyait le jour dans les parlements chez les députés nationaux, quoi. Les différents pays européens. On sent quelque chose ou pas ?
Il y a eu un débat au Sénat dans lequel les sénateurs se sont manifestés un peu bruyamment en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est au courant de rien. » Ce qu'a dit Yves tout à l'heure, le fait qu'ils sont au courant de rien, effectivement, ils ont plein de documents. Oui, oui. Ça comme, alors, une fronde, peut-être pas poussée, mais... oui, ben, il faut travailler à ça.
Il va questionner le gouvernement de façon assez offensive.
Monsieur.
Oui, concrètement, je crois que je ne maîtrise pas bien le contenu du traité. Ce qui m'y fait penser, c'est lors des banques. Là, on a vu que supervision, États-Unis, fin de l'Union européenne. C'est-à-dire que le traité va dire quelle est la supervision la meilleure. Ou alors, est-ce que c'est les arbitres qui vont venir la jurisprudence de tout mécanisme européen ? Je ne comprends pas.
La réglementation.
Le traité ne peut pas le prévoir.
Non.
Le traité ne peut pas dire, par exemple, le conflit classique qu'il va y avoir, c'est sur les poules aux hormones. La France dira non, et à ce moment-là, s'il n'y a rien de l'arbitre dira alors, est-ce que l'hormone est bonne pour la santé ? Donc, on parle de discussion pendant des années et des années. Donc, est-ce que c'est le traité qui va dire que les hormones sont bons pour la santé ou pas bons pour la santé ? Tout ce qui va se passer pendant le cas de la banque. Donc, où va se dire quelle est la supervision autorisée ?
Mais je comprends. Le traité ne dira pas que les hormones sont bonnes ou pas pour la santé, il dira simplement reconnaissance mutuelle des normes. Donc, ce qui se fait d'un côté doit se faire de l'autre. Ce qui est autorisé d'un côté doit être autorisé de l'autre.
Mais la supervision, non. On voit bien qu'on a deux règles de supervision. On ne peut pas dire ce qui est autorisé pour l'un et pour l'autre.
Si. Reconnaissance
mutuelle. On prend le minimum. Alors, ça veut dire qu'on prend le minimum. Le minimum, ça fait zéro. Là, un pays roule à droite, l'autre roule à gauche. On peut dire, non, on roule à les deux. Il faut bien... j'en ai pas en tête, mais il y a forcément des domaines où c'est oui ou non. Ça peut être oui et non.
Oui, mais ce ne sera pas oui et non. Ce sera effectivement l'alignement sur la norme la plus basse, puisque le principe est celui qu'il ne doit pas y avoir... la norme ne doit pas être plus restrictive que nécessaire. La nécessité d'une norme se calcule en fonction de l'objectif qu'on lui fixe. Et si dans l'objectif on dit bon bah la santé des populations n'est pas nécessairement un objectif, alors on pourra considérer que le cochon à la raclette, ça peut marcher. Et comme de toute façon reconnaissance mutuelle des normes, ce qui se fait, vous voyez, par exemple, là je continue sur les aspects agricoles parce que c'est, enfin, de santé alimentaire parce que ça parle. La ractopamine dans le cochon, le bœuf dans les hormones, le poulet lavé à l'eau de Javel pour lutter contre le colis. Bon, ça, c'est quelque chose qui est reconnu, qui est accepté du côté des États-Unis. Donc, puisque c'est accepté d'un côté et que ça donne des produits aptes à la consommation, il n'est pas possible d'interdire ces produits à l'exportation. Dès lors que ces produits ne peuvent pas être interdits à l'exportation, pourquoi est-ce que les producteurs locaux, je veux dire européens, se verraient opposer des règles qui ne se voient pas opposer qui ne soient pas opposés aux exportateurs, alors que le traité parle, je vous l'ai dit au tout début, de traitement national. Tout le monde doit être traité de la même manière. Traitement national, reconnaissance mutuelle, égale norme allant vers le bas, nécessairement.
Enfin, donc, c'est très fou, ça veut dire que c'est les arbitres qui vont tout décider. Prenons le cas bancaire, il y a 10 normes là, l'autre a 10 autres normes, alors ça veut dire qu'il n'y a plus 0 normes. Non,
j'ai un exemple complètement différent.
Et après Nelly.
Qui est dans le domaine salarial. On a une norme en France qui s'appelle le SMIC. Ça a tendance à s'étendre quand on écoute que l'Allemagne a dit qu'ils allaient introduire un SMIC. Il y a une entreprise française qui s'appelle Veolia qui a attaqué l'État égyptien parce que l'État égyptien a introduit un SMIC et que ce SMIC allait réduire son espérance de profit en Égypte.
C'est ça.
Donc on voit bien que effectivement ça c'est toujours aller vers le bas et que nos entreprises françaises sont pas plus...
Mais l'exemple de Veolia en Égypte sur le marché du traitement des ordures Alexandrie, exactement, est très très parlant. Et si on continue le raisonnement, on se dit, toujours avec le principe du traitement national, reconnaissance des normes, etc., mutuelle des normes, etc., on fait un constat simple, c'est que au moins les États-Unis n'ont pas ratifié 4 accords de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, je continue dans l'exemple social, sur la négociation collective, le droit, les droits syndicaux, le droit de créer son syndicat librement, etc. Ça, ce sont des accords internationaux qui n'ont pas été ratifiés par les États-Unis. Bon. Conséquence, point d'interrogation. Voilà.
Qu'est-ce que ça va donner, ça ?
Eh bien, ça, c'est ça qui est insupportable, c'est qu'on ne peut pas le dire maintenant. Puisque non seulement on ne sait pas ce qui est sur la table, mais on ne sait pas non plus... Enfin, on ne sait pas à l'arrivée si... nos gouvernants, enfin les négociateurs auront dit les normes sociales, etc., etc., et il ne sera pas possible de... Ça, on ne sait pas. Et on sait, en revanche, que reconnaissance mutuelle des normes, etc., etc. Donc, d'un côté, il y a des normes qui n'ont pas été ratifiées par les États-Unis ou qui n'existent pas aux États-Unis, qui existent dans l'Union européenne, et réciproquement, c'est dans les deux sens. Je crois qu'il faut vraiment répéter ça, notamment en prenant l'exemple financier. Et là, on se dit, bah, nécessairement, c'est une opération d'aller nécessairement vers le plus bas.
Nelly avait une question. Oui, c'était justement sur la ratification. Bon, si c'est une ratification pareil avec les États de l'Union européenne, est-ce que c'est majorité simple, deux tiers, unanimité, ou bien c'est simplement le Parlement plus la Commission, Parlement européen plus la
Commission. Parlement plus Commission, c'est-à-dire qu'il y a plus Commission et Conseil des ministres. Alors, Conseil des ministres ou Conseil des chefs d'État, c'est juste un niveau politique. Hein.
Lui, c'est forcément. Oui.
Bah lui, il a donné.
Bon, de tout.
Oui, parce qu'en fait, il y a institutionnellement, donc pour être précis, sur la ratification, vous avez le Parlement, majorité, 50% plus une voix. Vous avez la Commission, dont on ne voit pas pourquoi elle se déjugerait, puisque c'est elle qui conduit les négociations. Vous avez les États qui ont donné le mandat, et qui suivent les négociations. Attention, il y a un comité que par habitude on continue d'appeler le comité C-133, parce que ça correspond à l'ancienne numérotation, et maintenant c'est une autre numérotation dans le traité de fonctionnement de l'Union, qui est un comité de représentants de chaque État qui est informé de chaque étape de la négociation. C'est un machin qui se réunit très régulièrement. On sait de temps en temps quand ils se réunissent, quand on a des fuites, on ne sait jamais ce qui s'y dit. Mais on sait simplement que les États sont tenus informés des négociations. Donc les États vont nécessairement dire oui au moment où le truc arrivera au grand jour, puisqu'ils auront été informés de tout le reste auparavant. Donc ce qui restera seulement, c'est le vote du Parlement. Et du Parlement européen, suivi éventuellement, question très importante, mais en suspens, du vote des parlements nationaux. D'où l'idée de démarrer avant. Parce que c'est pas au moment où ça va arriver qu'on va se réveiller, quand on va nous dire « Ah, ben dans 3 semaines, on va voter. » Non, c'est pas en 3 semaines qu'on fait une mobilisation. En 1 an, 2 ans, oui, on peut. On l'a fait, on l'a déjà montré. Donc on peut, on le fait. Donc c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut commencer les enquiquiner. La prochaine échéance, les élections européennes. Et puis après, faut pas lâcher le morceau.
Justement, donc, si c'est les parlements nationaux, est-ce que c'est autant au niveau de la c'est quelle majorité?
Il n'y en a qu'une.
Il n'y en a qu'une, simple. Non.
Pas dans les parlements. Je parle au niveau de tous les pays.
Ah, l'unanimité.
Non,
l'unanimité de tous les parlements. C'est ça ta question, de tous les parlements. De tous les parlements. Tous les États. Si les États sont consultés, voilà, c'est l'unanimité.
Comme pour le pacte.
Voilà.
Enfin, c'est l'unanimité au niveau des gouvernements aussi.
Oui, mais ça c'est pas un problème.
Le gouvernement est quand même assez lié à son parlement, hein, dans une démocratie.
Madame, et après...
Oui, alors c'est là que je crois qu'il faut interrompre, parce que le problème, et on parlait du secret tout à l'heure, il y a ces membres de la commission 133. En France, il y a deux douzaines de personnes qui sont vraiment au courant et qui savent de quoi il s'agit. La moitié des ministres ne sont pas au courant. Les parlementaires sont très peu au courant et sont tenus au secret. Ils s'engagent à garder des informations. Donc, quand Frédéric dit « les États », c'est quelques personnes au sein des États. Et au moment où ce sera apporté à la signature, comme il vient de le dire, il y aura ça doit être validé par les parlements nationaux. On leur dira, bon, ben, vous avez 3 semaines pour étudier. Et puis, comme personne n'aura été pris au courant auparavant, le temps de passer en revue les 1500 pages et clauses, ça passera comme une lettre à la poste.
Comme l'OMC. Hein.
Comme à l'OMC.
L'OMC, c'était très drôle, ils ont reçu ça avant Noël, ils ont voté ça juste avant, entre Noël et le jour de l'an.
On a dit,
non, sans blague. Hein.
C'est très sérieux. Je voulais, effectivement, dans toute l'ambiance clandestine de ces discussions-là, et qu'une seule chose qui a été dite, quand même, qui est répétée, exception culturelle pour le cinéma. Pour le cinéma ou exception culturelle Qu'est-ce que... Pourquoi on a besoin d'en faire autant de publicité, ça. Et qu'est-ce que ça comporte exactement?
Pourquoi on, le gouvernement a besoin d'en faire autant de publicité,
oui,
c'est ça.
Oui, c'est les autres. Oui, c'est
un... Probablement parce que le gouvernement a un petit peu de mémoire, le gouvernement actuel s'est souvenu que la grande mobilisation contre l'accord multilatéral sur l'investissement en 1998, qui prévoyait au moins le mécanisme investisseur-État, même s'il ne prévoyait pas le mécanisme de coopération réglementaire, avait été mené, entre autres, par les milieux culturels, et qu'on avait vu un certain nombre de cinéastes, un peu connus notamment, qui s'étaient bougés sur la question et qui avaient dit « attention, on va avoir Hollywood qui débarque, etc. » Et c'est là où on avait commencé à parler de l'exception culturelle. Le gouvernement s'en est souvenu, à tel point d'ailleurs que, pour la petite histoire, le président français est intervenu au cours du Conseil des ministres. Ça, c'est la petite histoire, mais il a téléphoné au cours du Conseil des ministres pour dire « veto s'il n'y a pas l'exception culturelle ». Et ça a été effectivement un élément de langage, comme on dit maintenant. Tout de suite, derrière, la Commission a dit « oui, il y a l'exception culturelle, mais de toute façon, nous nous réservons le droit de revenir en cours de négociation pour l'élargissement de notre mandat ». Elle n'était pas contente, la Commission, mais enfin, la ministre répète « exception culturelle », qui, pour le gouvernement français, se résume jusqu'ici à l'audiovisuel. Alors, je ne sais pas, la culture, c'est peut-être que l'audiovisuel, il ne doit pas y avoir le livre, ni le spectacle vivant, je ne sais pas. Mais enfin, voilà, pour l'instant, oui, c'est ça. Mais c'est une interprétation que je donne, je suis nécessairement mauvaise langue.
Parce que c'est, excusez-moi, je continue sur cette question-là, parce que si c'est le souvenir d'une réaction et tout ça, pourquoi il n'y a pas la même force avec toute la réaction du milieu agricole qui est quand même aidée
Elle est là, la réponse. Elle est là. Ah oui, non, ça, alors là, elle est là. Je veux dire, non seulement alors, le milieu agricole...
C'est-à-dire qu'effectivement, même depuis, ça a été un peu les raisons aussi qu'on a vu avec José Bové, avec on avait déjà quand même anticipé un peu sur et dénoncé tous ces accords-là. Ces accords où c'est impossible, ces murs qui s'érigent.
C'est exactement dans ce genre d'ambiance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est plutôt bon signe. Maintenant, le milieu agricole, bon, il faut nuancer. Hein. Vous savez qu'il y a la FNSEA qui n'est pas excessivement, pas qui est complètement dirigée par l'agroalimentaire aujourd'hui. Hein. Bon, c'est une réalité. La Confédération paysanne est dedans dans la mobilisation. Mais vous avez aussi dans la mobilisation à propos d'agriculture tout ce qui est les organisations qui sont les gens qui sont mobilisés sur les OGM, tout ce qui sont mobilisés aussi sur les questions environnementales, etc. Enfin, vous voyez, tout ça fait un pont et le lien il existe déjà. Et ça, ces mobilisations continuent d'être vivaces, continuent d'être fortes. On ne peut pas du tout dire qu'il n'y a pas de réaction, c'est même l'inverse, c'est même plutôt réconfortant de voir que sur les questions environnementales, les mobilisations fortes qu'il y a eu continuent d'exister, je pense au gaz de schiste notamment, mais aussi sur les OGM, ils sont tous là. Hein. Donc non, c'est plutôt même bon signe. Plutôt bon signe. Même si, encore une fois, on a du boulot, c'est pas...
Des preuves prises par le gouvernement.
Non, mais le gouvernement ne reprend pas ça. Il a donné le mandat et à chaque fois qu'on voit la ministre du Commerce extérieur, elle nous dit le gouvernement veut cet accord parce qu'il est bon pour la croissance. Vous savez, c'est cette vieille croyance que le libre-échange va sauver le monde, et nous aussi au passage, et que c'est l'alpha et l'oméga du bonheur sur Terre. On est là-dedans.
Avant de laisser la parole à...
On peut attaquer le gouvernement pour justement favoriser plus le commerce et l'industrie que le citoyen.
Attaquer devant qui ?
Il est élu par le citoyen,
bah,
pour
ouais.
protéger le citoyen.
Exactement.
Et on ne peut pas l'amener en tribunal. Je suis naïve, je ne connais pas tout ça. Mais...
Non, le seul tribunal que connaisse le gouvernement, c'est le vote, normalement, c'est l'élection. C'est l'élection.
Et qu'est-ce que dit la Constitution ?
À la Constitution dit que le gouvernement mène des politiques et dès lors qu'on n'est pas dans la haute trahison, c'est-à-dire dès lors qu'on n'a pas vendu du beurre à l'ennemi,
pour c'est le pas dire une trahison, ça.
Mais ça se fait dans notre dos, c'est une trahison quand même.
Il n'y a aucun. La seule réponse est politique à ces questions-là. C'est bien pour ça qu'on est là ce soir. La seule réponse est politique. La voie judiciaire pour traiter les questions politiques n'existe pas.
Avant de laisser la parole à Evelyne, tout à l'heure, tu parlais rapidement du gaz de schiste. Un exemple de connexion internationale avec TAFTA lié au gaz de schiste, il y a un mois, a eu lieu dans le Gard une rencontre euro-méditerranéenne sur le gaz de schiste. Bon, il y avait des Tunisiens, des Marocains, des Anglais, des Ukrainiens, des Polonais, pour parler gaz de schiste. Ok, c'est gaz de schiste. Parmi les sujets qui ont été abordés, c'était TAFTA, TTIP. D'ailleurs, certains délégués de certains pays n'étaient pas au courant de cette discussion. Et ça leur a permis d'apprendre cette question. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des connexions. On parlait des connexions avec l'agriculture, il y a des connexions avec gaz de schiste, et il y a des points un petit peu partout. Evelyne, tu avais levé la main depuis longtemps.
Et je levais la parole après.
Oui, mais Evelyne n'a pas encore pris la parole. Oui.
Il y a
eu
une réponse à ma question.
Ah oui, mais alors,
la question que je me posais, c'est que, en cas de ratification du traité, tous les États européens seront obligés d'y adhérer, mais il paraît que certains États des États-Unis pourraient se donner le droit de ne pas accepter. Vous avez entendu
Oui. C'est-à-dire qu'il commence déjà à y avoir. Il y a des contradictions internes dans le système. Il y a un vieux débat aux États-Unis depuis la création des États-Unis sur les relations entre les États fédérés et l'État fédéral. Et y compris aux États-Unis, les États fédérés ont un certain nombre de compétences qu'ils n'ont pas envie de voir remettre en cause. Et notamment, il y a deux choses, enfin en fait c'est le même dispositif, autour du Buy American Act, qui permet, c'est une loi qui permet en gros, au niveau fédéral et au niveau local, qu'au niveau local soient prises des mesures pour protéger les marchés publics locaux. Et déjà, il y a des États fédérés qui ont dit on va continuer de protéger nos marchés publics locaux parce que, aux États-Unis, le libre-échange, plus exactement les accords de commerce internationaux, c'est un sujet politique. On n'a pas encore réussi ça ici. Là-bas, c'est le cas, puisque ça fait 20 ans qu'ils ont l'ALENA. Et dans la campagne électorale, la dernière, y compris la campagne électorale présidentielle, c'était un sujet. Bon. Donc déjà, ils ont commencé à agir en disant « ça, on n'y touchera pas, on ne veut pas y toucher, et d'ailleurs, nous avons des compétences fédérées, etc. Vous faites ce que vous voulez au niveau fédéral, mais nous, au niveau fédéral, on va garder un certain nombre de compétences. » Et ça, c'est ce qui est sur la table, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les négociations ne vont pas se finir demain matin. Parce que, de l'autre côté, l'Union européenne a dit, répète, la ministre du Commerce extérieur nous le répète à chaque fois qu'on y va, enfin, on n'y va pas tout le temps non plus, mais enfin, on y est allé quelques fois. Elle nous dit, elle nous répète, l'Union européenne a des intérêts offensifs, les marchés publics locaux. C'est en dizaines, enfin centaines, pardon, 2 milliards d'euros, vous voyez, c'est des choses considérables. Donc là, il y a un clash. Il y a effectivement un clash. Et l'Union européenne veut absolument obtenir, puisque les lobbies le demandent, veut absolument obtenir la garantie que si ce texte se fait, il puisse ouvrir les marchés publics locaux. Vous voyez que ça lui sert de couteau comme pour ouvrir une huître. Vous voyez, pour l'instant, ils se sont fermés. Donc ça, ce débat, cette contradiction interne, ça va bloquer. On n'en sait rien. En tous les cas, on peut utiliser ça. Et nos copains qu'on a vus là, le mois dernier nous ont expliqué comment ils comptaient bien utiliser ce truc-là et comment déjà ils utilisent ce truc-là pour essayer d'obtenir que le Congrès ne puisse pas ratifier par oui ou par non, etc. Ils ont eux-mêmes leur propre stratégie, y compris institutionnelle, là-dessus.
Sur le même sujet, si j'ai bien compris, il y a 13 États qui ont cette préférence locale.
Ah voilà, ça c'est un autre truc, pareil. Ça, c'est très intéressant aussi que j'ai appris. Enfin, de la part des copains des États-Unis, c'est que, y compris les gens des États-Unis, ont à craindre des choses de l'Union européenne. Et par exemple, il y a ce qu'ils appellent les préférences géographiques. C'est une idée toute simple que, également, on peut connaître, mais différemment. La possibilité pour une école, une mairie, un hôpital, de se mettre en cheville directement avec un producteur local pour la cantine, ou des producteurs locaux pour la cantine. Et donc, de dire, voilà, c'est machin qui va... Alors, pour l'instant, à chaque fois que ça a été fait, ça passe à côté des Monsanto, Dupont, etc., etc., etc. C'est vraiment l'idée de passer à côté de ce qui constitue 90% du marché. Vous voyez, essayer de faire un peu autre chose. Cette préférence géographique est acceptée dans 13 États et 23 villes. L'Union européenne a listé ces États et dit « ça, je veux que ça saute, déjà ». Ça, on l'a eu aussi par des fuites.
Mais Monsanto l'a écrit aussi. Il espère que ça passera pour pouvoir revenir dans ces États-là.
Voilà. Exactement. C'est l'effet boomerang dont on parlait tout à l'heure, exactement. Exactement ça.
Oui. Excusez-moi, est-ce que vous savez si les médias allemands, anglais, américains parlent plus de la France que les Français qui en parlent pas
plus. Plus. Oui. Plus. C'est-à-dire que ils sont quand même, les nôtres sont quand même vraiment à la ramasse parce que là-dessus, bon, c'est vrai qu'on peut toujours considérer que c'est toujours plus rigolo de nous parler à certaines époques du président déguisé en Daft Punk qui va se promener en moto, c'est toujours plus drôle que nous parler de ça. Mais franchement, en Allemagne, c'est bien mieux pour ce que j'ai pu en voir. Bon, en Espagne, c'est nul. Mais en Belgique aussi, c'est bien mieux. Les Anglais en ont parlé. aussi. Bon, c'est tout ce que j'ai comme exemple sous le coude là. Mais les Français sont quand même très mauvais, oui.
Ok, pour quelle raison ?
Mais je pense que effectivement, il vaut mieux parler des choses inoffensives qui font vendre du papier que des choses importantes. Le gouvernement français aussi a désamorcé de manière. Tout à l'heure, on parlait d'exception culturelle. C'était une tentative de désamorcer la chose. Un des moments où on en a parlé dans les médias, c'était pour dire le président a imposé l'exception culturelle. Une fois qu'on a dit ça, bon, ça c'est un phénomène général dans les médias, un clou chasse l'autre, et hop, on est parti sur d'autres séquences. Mais c'est vrai que nos médias sont plutôt mauvais. Alors récemment, on a été quelques-uns, bon, on s'est fait un peu plaisir, mais s'il faut le faire, et c'est important, on était quelques-uns à aller manifester devant France 2 pour demander à ce qu'il y ait une couverture un peu plus... Ouais, deux, trois sourires dans le coin, puisqu'il y avait des personnes qui étaient là, pour aller manifester, pour demander ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on n'y est pas. Ceci dit, ça vient quand même de plus en plus.
Il y a eu une émission de Roots de Gassi, Terre à Terre, sur France Culture, il y a quelques samedis, avec Raoul Marc Génard.
Et il y a eu il va y avoir du grain à moudre sur France Culture, où il y a eu...
Oui, c'est cette semaine, je crois. Cette semaine.
Ah oui, t'as dû passer aussi.
C'est demain soir.
C'est demain soir. J'arrive plus à suivre.
J'avais une question par rapport à la politique agricole commune. Est-ce que les subventions, les subventions historiques que reçoivent les agriculteurs, est-ce que ça, c'est concerné par l'accord ou pas ?
Non. Enfin voilà, non, là, je vais un peu vite en besogne pour répondre aussi péremptoirement. Ce qui s'est passé, c'est que concernant les subventions agricoles spécifiquement, les États-Unis et l'Union européenne se sont mises déjà d'accord dans le cadre de l'OMC pour faire une modification de la manière dont ils accordent des subventions. Et ça s'est traduit par ce qu'on appelle le découplage des subventions agricoles, c'est-à-dire le fait que la subvention n'est plus une subvention liée à la production, ce qui, dans le cas de l'OMC, fait partie des subventions interdites, les boîtes orange interdites, il y a des boîtes de différentes couleurs, mais liées à la terre elle-même. Et donc, l'Union européenne et les États-Unis se sont déjà mis d'accord là-dessus, dans le cadre de l'OMC. Donc, elles ne vont pas revenir, me semble-t-il, hein, c'est ce qui paraît logique, elles ne vont pas revenir sur ce genre de choses, puisque, au fond, elles sont à des niveaux de subvention équivalents, et que, voilà. Bon. Alors, après, je ne sais pas trop si, et comment, et pourquoi, d'ailleurs, les États-Unis iraient chercher des poux, j'en sais rien, sur la nouvelle politique agricole commune, concernant c'est un peu technique, mais le deuxième pilier, c'est-à-dire les types de subventions qui sont faites, qui sont renationalisées dans le cadre de la PAC et qui sont faites pour essayer de favoriser des circuits courts, les paysages, etc. Je vois pas pourquoi les États-Unis iraient chercher des poux à la PAC là-dedans. Je sais pas répondre, mais sur le gros truc, c'est-à-dire les subventions, les bonnes grosses subventions qu'ils donnent, ils sont dans les mêmes systèmes et ils vont accepter de pas s'embêter trop l'un vis-à-vis de l'autre.
Bénédicte.
Oui, moi je suis pas très je suis un peu sur la fin de ta réponse sur la presse. Tu dis la presse française, elle est à la ramasse, complètement nulle, elle ne parle pas de ça. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est quand même bizarre. Si les autres presses européennes en parlent, on a quand même des presses qui parlent du patronage en général, quelques-unes quand même, mais comment ça se fait que ça ne sort pas du tout?
Non, on ne peut pas dire ça ne sort pas du tout. J'étais un peu raide.
La revue Alter Echo en parle régulièrement.
Voilà, Alter Echo en a parlé. Mediapart en parle. J'ai été trop raide, t'as raison. Non, non, mais tu as raison, j'étais un peu raide. Mediapart, on a parlé. Le Monde diplomatique a fait un très bel article au mois d'octobre, deux pages entières, signé de Laurie Walla, qui est la directrice de Public Citizen des États-Unis. Très important qu'on ait ce genre de signature. Il y a eu une émission sur Arte. Alors bon, l'émission sur Arte, elle était plutôt pour défendre le projet. Donc on est un peu embêté. Mais il y a quand même deux, trois exemples. Mais globalement, c'est vrai que c'est pas, quand je dis la presse n'a pas fait encore son travail, je veux dire par là qu'elle c'est pas encore devenu un sujet politique, comme ça l'est en effet aux États-Unis. Et qu'il serait bon qu'on n'attende pas 20 ans que ça devienne un sujet politique, comme ça a été le cas aux États-Unis. Il a fallu quand même attendre bien 10-15 ans pour que ça devienne un sujet politique aux États-Unis.
Mais ça aurait une action aussi à faire,
oui. On est preneur. On est preneur.
Oui, monsieur.
On a proposé des articles, des tribunes.
Ah mais on en a là, j'en ai pondu une dans Mediapart la semaine dernière je crois.
D'accord.
Non, ça, le Mediapart c'est bon, mais après dans les autres médias, non. Pour l'instant c'est pas ça.
Non, mais monsieur, aujourd'hui savoir s'il y a également de la mobilisation au Canada, aux États-Unis,
les citoyens aussi. Alors au Canada, ça fait très longtemps qu'ils sont mobilisés, ça fait 4 ans en fait, ils sont mobilisés immédiatement parce que essentiellement parce que au Québec par exemple, il y a des services publics qui sont encore très conséquents et que par ailleurs, ils ont des syndicats, je pense notamment au syndicat des infirmières sur la santé, ils sont vraiment très puissants. Et que effectivement, eux, ça fait 20 ans qu'ils sont dedans. Donc ils ont cette mobilisation réelle qui est conduite essentiellement par le Conseil des Canadiens et par le réseau québécois d'intégration continentale. En tous les cas, au Québec, le Conseil des Canadiens, c'est surtout le Canada. Ça, c'est vrai qu'au Canada, ils se bougent beaucoup. En même temps, au Canada, il y a aussi des forces qui sont très pro. Ce type d'accord. Hein. Le Canada n'est pas du tout un paradis écologique, par exemple. Il y a vraiment des forces, par exemple, qui visent clairement les directives européennes, pour notamment celles sur la qualité de l'air, pour essayer de faire passer, de faire exporter les pétroles issus des sables bitumineux qui sont extraits en Alberta, au Canada. Donc il y a vraiment des forces contradictoires, mais il y a une mobilisation forte au Canada, oui, réelle. Et aux États-Unis, alors les États-Unis, ils sont axés, oui, aussi, ils sont axés sur une chose, c'est sur ce qu'ils appellent le fast track, c'est-à-dire, on pourrait traduire ça par voie rapide, en quelque sorte. En fait, quand il y a une négociation commerciale, l'administration négocie, et ensuite ça va devant le Congrès, qui, contrairement à chez nous, peut dire oui ou non, mais aussi amender le texte. Donc si le Congrès amende, ça veut dire qu'il faut redémarrer un coup de négociation, forcément, puisque le parti adverse ne sera pas forcément d'accord. Donc c'est bien, ça peut nous faire gagner du temps. Et là, sauf s'il y a la loi dite de fast track, auquel cas, à l'avance, le Congrès dit je voterai oui ou non. Il le dit à l'avance. Et ça, on a déjà eu le président de la Chambre, pardon, du Sénat, si je ne dis pas des bêtises, du Sénat, du Congrès des États-Unis, qui a dit qu'il ne voulait, le président démocrate, pardon, qu'il ne voulait pas du fast track. Donc vraiment, ils ont une mobilisation sérieuse sur la question.
Public Citizen sont des gens qui sont plutôt de mauvais élèves des États-Unis. Enfin, c'est un petit peu son dette, mais par curiosité, c'est qui?
Moi, je dirais plutôt de l'Est. Hein,
j'imagine.
Oui. C'est, en fait, Public Citizen, son historique, a été créé par Ralph Nader, dans les années 70, pour ceux qui se souviennent.
Oui,
c'était présenté aux élections. Il avait essayé d'introduire à l'époque, dans les années 70, la question environnementale dans les débats publics aux États-Unis.
Ils sont très présents en Californie aussi.
Voilà. Ils sont très présents en Californie aussi.
D'accord.
Et, mais c'est un mouvement puissant. Enfin, comme ça faire les Américains quand ils font ce genre de choses, c'est vraiment. C'est, enfin, en fait, c'est très impressionnant ce qu'ils font. C'est tout à fait impressionnant. Bon, et bien,
si vous avez une autre question, parce que sinon,
sinon on va manger, hein, c'est voir.
Oui.
C'est la question qui suit. C'est est-ce qu'il y a des synergies entre
est-ce qu'il y a des campagnes communes, ce genre de choses?
Oui, oui.
La campagne consistant à aller voir les locaux a trouvé beaucoup d'écho auprès des copains américains, précisément pour les histoires de préférences géographiques, ce genre de choses, ça vraiment, ça leur parle. Ça a aussi pas mal répondu du côté des Allemands et des Belges. Et oui, il y a pas mal de... Il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est la position des syndicats. C'est-à-dire que, y compris les gros syndicats, je veux dire par là... des gros syndicats dans l'Union européenne commencent à se dire que là, il y a un problème. On a du boulot pour les gros syndicats, notamment les syndicats qui font partie de la CES, qui sont la Confédération européenne des syndicats. Oui, notamment, c'est là-dessus qu'on essaye, qu'on espère travailler avec IG Metall pour arriver à faire basculer des forces syndicales significatives. Voilà, on est là-dedans pour l'instant, dans ce genre de choses. Sachant que du côté des États-Unis, la FLCIO est déjà en plein dedans. Donc on a des alliés de poids pour ce genre de choses. Hein. Voilà. Là, je vous parle un petit peu de l'échiquier des forces par rapport aux syndicats, ONG, etc., les syndicats entre eux. Mais l'arc qui commence à se mettre en place est assez intéressant. Oui. Même si, pour l'instant... Alors oui, il y a autre chose aussi... Il y a une idée qui est en discussion dans le collectif européen de savoir si on fait quelque chose comme une ICE, une initiative citoyenne européenne ou pas. Mm-hmm. On discute là, on ne sait pas. Ou si on relaye des pétitions qui sont déjà lancées, parce que c'est inévitable dans ce genre de mouvement, au niveau national, pouf, il y a toujours des gens qui se lancent. Bon. Donc il y a déjà des pétitions partout. Il y a des gens signés 3, à ma connaissance. L'idée, ce serait essayer de faire quelque chose d'ampleur européenne. Voilà, on se voit là-dessus dans pas longtemps pour, je sais plus quand d'ailleurs, pour en discuter. Voilà, ce genre de choses est dans les tuyaux.
En Slovaquie, par exemple, la population elle réagit plus qu'ici parce qu'ils sont impliqués ou dans une
certaine. Eh ben alors là. Je ne sais pas, mais c'est une excellente question.
La population, je ne sais
Slovaque.
Pas. Mais la mobilisation en France, je la trouve relativement forte, modeste malgré tout. Mais Frédéric, c'est très gentil d'être venu ce soir, mais je crois que tu fais à peu près trois conférences, deux ou trois conférences par semaine, non? À peu près. Mais tu te balades un petit peu partout dans la France. En France, bon, et il y a d'autres personnes d'attaque ou hors attaque qui font énormément de conférences qui sont. Oui. Voilà.
La Slovaquie, ouais.
Ah oui, je pensais que tu parlais de la France, oui.
Ouais, ouais. Ça, alors là, tu vois, je peux pas te répondre, mais c'est il faut aller le voir. Non, mais c'est vrai, t'as raison, faut voir un peu comment ça réagit aussi avec ça, c'est sûr.
Et il y a Patrick Le Yarrick au PC quand même.
Alors oui, mais ça c'est par exemple sur le collectif national, vous avez, je l'ai évoqué tout à l'heure un peu rapidement, mais dans le collectif national, effectivement il y a ATTAC qui fait des choses, mais il n'y a pas que ATTAC qui fait des choses, c'est ça qui est intéressant, et on arrive à faire cohabiter des partis politiques. On a tous les partis politiques du Front de Gauche, bon, enfin... on verra après les municipales, mais en tous les cas, ils y sont pour l'instant tous. Ils sont, il y a les Verts aussi, il y a les Jeunes Verts également. Il y a comme syndicat, il y a la CGT qui soutient, il y a la FSU, bon, la Confédération Paysanne. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas FO, tiens. Bon. Pardon ? Oui, solidaire. À force de les voir tout le temps, je les nomme même plus. Ils sont évidemment, il y a solidaire, il y a solidaire douane. Oui, oui. Mais ils sont comme ils sont tout le temps dans toutes ces mobilisations-là, je les nomme même plus, mais ils y sont à fond.
Et
solidaire.
Et sud.
Ah oui, mais c'est ça. Hein. Et puis alors après, il y a tout le banc et l'arrière-ban des faucheurs d'OGM, des environnementalistes, tout ce que vous voulez sur les. Sur les gaz de schiste, enfin, ils y sont tous. Hein, je sais pas ce
il y a la Quadrature du Net
et voilà,
qui travaille, qui s'est beaucoup mobilisé sur ACTA et comme le TTIP peut faire
revenir les questions qui avaient dans ACTA par la fenêtre. C'est vrai. Et eux, ils y sont également. Sont.
Non, non, mais le nombre d'associations est très, très varié. Il y a une quarantaine d'associations. Et si vous regardez la liste des associations, il y en a une quarantaine. Après, on saute trois lignes. Et puis, il y a une quarantaine de groupes locaux contre le gaz de schiste. Alors là, côté gaz de schiste, ils se mobilisent tous. Donc il y a chaque ville, etc.
Ça, c'est important, oui.
Non, le 1er avril, il y aura au lieu dit, Mélimontant, Raoul Marc Génard, qui fait le même travail que Frédéric et qui donnera.
Ah oui, mais lui, il y en a 5 par semaine. Lui. C'est leur on a un concours, voyez-vous, c'est lui qui gagne pour l'instant. Il n'arrête pas.
Il y a un autre personnage dont vous trouvez le découvert, c'est Patrick Gatine. Et sur Internet, j'ai découvert une conférence
il est
dans la
table,
de lui.
Non il est à
TAC. Ah ouais, oui, d'accord.
Oui,
il est à TAC. Oui, il est à
TAC. Si, puisque je le vois sur mes listes. Oui,
Patrick, il est là.
Sur le local.
Et il y a une conférence
de lui. Sur le local, il écrit pratiquement tous les jours.
Ah oui, donc il est à TAC, d'accord.
Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions.
Ah, il y a une question. Mais c'est la dernière, après on va manger.
Allez-y.
Une seule suggestion, il y a une radio, Radio Ici Maintenant, 95.2, qui est pas très loin, qui est rue Violet, là. Si vous les contactez, vous pouvez sur leur site, Lisandre, ils s'occupent d'économie, ils vous recevront. Hein. Ils ont eu des ennuis parce qu'à certains moments, ils recevaient beaucoup de virus, beaucoup de messages. À certains moments, leur radio était un peu bloquée. Bon, c'est une radio qui est assez éclectique, qui ne reçoit pas que la gauche, mais aussi des gens de droite, mais ils vous recevront. Hein.
Okay. Très bien. Bon ben, merci beaucoup Frédéric.
Merci beaucoup.